Felag Guibedos et l'irremplaçable Raymond DeVos. Bonjour, ce sont les fantaisies que je vous ai concoctées pour ce jeudi. Comme chaque semaine de 14h à 14h30, FM Plus vous offre une demi-heure de rire sur le 91 MHz si vous êtes à Montpellier et son agglomération. Sinon, vous pouvez vous joindre à nous depuis le 103.1 si vous êtes du côté de Nîmes et de son agglomération via Radio Alliance Plus. On démarre tout de suite par de l'humour qui nous vient du Sud avec Felag, qui veut dire franc-tireur. On le retrouve dans un sketch issu de son spectacle Un bateau pour l'Australie, relatant les aventures d'un certain Areski, fou amoureux de Jamila, qui voulait effacer de sa mémoire. Alors il s'adresse au fils du divin jusqu'à vouloir pratiquer le vaudou.
Alors Areski était complètement dégoûté et il voulait mourir. Il s'est dit, ben puisque c'est comme ça, eh ben je vais me suicider. Et en plus de ça, je vais me suicider pour toute la vie, jusqu'à la mort si c'est nécessaire. Et il a décidé d'aller se jeter dans une crique de Saint-Eugène, un quartier qui se trouve après Babeloued. Et en passant dans une ruelle du quartier, le regard d'Areski a été attiré par un très vieux livre recouvert d'une peau de chèvre posé sur l'étalage d'un bouquiniste. Il a suivi les pointillés, la tic-tic-tic-tic-tic, il a pris le livre, il a ouvert l'évangile selon Saint Matthieu. L'Injil en Sidney Matthew. Et il s'est mis à lire des passages au hasard. Tu aimeras ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne tueras point. Dieu est amour. Et ça lui a plu. Il a acheté le livre et il a décidé de remettre son suicide à plus tard. Non, mais il faut le dire très franchement. Dès le début, l'idée d'aller se suicider en se noyant lui faisait très peur parce qu'il ne savait pas nager. Il est revenu à la maison, et pendant des mois, il s'était plongé dans la lecture de l'Évangile, et petit à petit, il est entré en osmose, en symbiose avec Jésus-Christ. Et quand il a vu que Jésus faisait des miracles, il multiplie les pains, il marche sur l'eau, des fois il transforme l'eau en vin pour boire un coup avec les copains. Et il s'est dit, ah ben tiens, moi aussi je vais lui demander un miracle, peut-être qu'il peut m'aider. Il a ouvert l'Évangile sur un dessin, une gravure de Jésus-Christ, il l'a regardé dans les yeux, lui a fait, oh Jésus, oh, Sidna Issa. Sidna Issa, c'est le nom de Jésus en arabe. Hein? En fait, c'est le vrai nom. Hein? Ben oui, bien sûr. Jésus-Christ, c'est un nom d'adoption, c'est plus tard. Mais à la base, c'est Sidna Issa, il s'appelle Sidna Issa. Il vient de chez nous, hein? C'est un homme du Sud. Hein? Ben oui. C'est un immigré comme nous. Hein? Sauf que lui, il a une carte de résidence de 2000 ans. Avec possibilité de renouvellement éternel. Et nous, pour gratter un an, il faut que tu laisses ta mère en otage à la préfecture. Il a regardé dans les yeux, il lui a fait, oh Jésus, fais un miracle. Dire-moi, disait Sidna Issa, fais-moi oublier Jamila, efface-la jamais de ma mémoire. Tout d'un coup, de la fumée est sortie dans ta lépage, la fumée a rempli toute la chambre, la fumée peu à peu s'est dissipée et Jésus apparut. Oh, pardon. Jésus a regardé Areski et il s'est avancé vers lui. Il a posé sa main sur la tête d'Areski et lui a dit, tu es bien sympathique mon garçon, mais je ne fais pas de miracle pour les musulmans. Tu t'es trompé de livre, El Aziz. Mais c'est pas mon département. Alors Areski, n'ayant été sauvé ni par le yoga, ni par Jésus, ni par l'hypnotisme, a décidé d'aller encore plus loin. Il s'est mis à faire de la magie noire, la sorcellerie, Sour et Hshkoulen. Il s'est entraîné pendant 2 ans chez une magicienne mauritanienne. Je dis mauritanienne parce que la dernière fois j'ai dit une magicienne marocaine et j'ai eu des problèmes avec le public. Voilà, comme ça, tranquille. Ah oui. Comme ça, je l'ai délocalisé. Pas de risque. La Mauritanie, au moins, c'est tellement loin, même les Mauritaniens ne savent pas où ça se trouve. Alors donc, Pendant 2 ans, la magicienne mauritanienne lui avait appris tous les plus grands tours de magie. Et en plus de cela, il s'était mis en relation avec tous les plus grands sorciers du monde qui lui envoyaient toutes les formules, les concoctions et les potions magiques. Et toutes les nuits dans la cité, on entendait Harris qui hurlait au loup. Et on l'entendait faire des séances de vaudou, du vaudou africain, brésilien, haïtien. Et il faisait du macumba. Humbala, humbala, humba, humba, houlala. Ha ha, humba la, humba humba, hula la. Ha ha, humba la, humba humba, hula la. Ha la la la, humba la, humba humba, hula la. Ha ha, humba la, humba humba, hula la. Shlawish shlawish, humba la. Shlawish shlawish shlawish, humba la. Le
Nous restons dans le sud, cette fois c'est Guy Bedos qui en janvier 1983, invité d'une émission en prime time, interprétait un sketch, le dictionnaire médical, mettant en scène un hypochondriaque compulsant le dico médical.
S'il y a un truc qu'il vaut mieux éviter si on veut pas tomber malade, c'est de compulser un dictionnaire médical. Parce que là, si vous êtes tant soit peu impressionnable... Si t'es un tout petit peu émotif, toi, ce que tu lis, tu l'as. Moi, au départ, c'était pas pour moi, c'était pour ma fille, la cadette, Lolotte, qui nous a attrapé des boutons. Et oui, voilà qu'elle nous fait des boutons, Lolotte. Et quand je dis boutons, je pense plutôt bubon. C'est même le gros bubon. Si c'était un fruit, ça serait plus près de la cerise que de la myrtille, tu vois, pour faire image. Celle-là, elle a pas de peau. Enfin, si, mais vilaine. Déjà que bon, c'est ma fille, mais objectif, tu vois, quand même, pauvre cocotte, pauvre Lolotte, on peut pas dire qu'elle soit vraiment. Non, elle est sympathique, elle est attachante, mais alors là, ça lui fait des joues, 2 tranches de cake. Elle se gratte au sang, c'est dégueulasse. Elle a les bras, on dirait du foie de veau. Vachement appétissant. Alors, on est allé voir un dermatologue, il l'a ausculté de partout, de temps en temps, il se détournait. J'ai cru qu'il y a eu des gobiers dessus. Ils sont costauds, les types, ça vaut la peine de faire des études. Enfin, il l'a regardé quand même, ce qui est déjà sympa de sa part. Et au résultat, eh ben, il sait pas. Voilà, il voit pas bien, il faut qu'il réfléchisse. Au revoir, docteur, merci beaucoup, comme je vous dois. Voyez mon assistante, 20 sacs. Dis donc, il y en a qui veulent pas leur pognon. Enfin, on sait tout ce que c'est pas. C'est pas le psoriasis, ou je sais pas quoi, je saurais jamais le dire. C'est pas l'érysipèle, ça on est sûr. C'est pas l'érythème, parce que l'érythème, c'est plutôt fessier, et elle en a partout, cette dégoûtante. Ça n'est pas non plus une quelconque mycose, ni quoi, ni caisse. Ça serait peut-être, sans engagement d'aucune part, une kératose pilaire purulente. Bénigne. Voilà, on est content. Alors, j'ai regardé dans le dico, car kératose, affection bénigne, en effet, se présentant plus comme un état de la peau qu'une maladie à part entière. Ah ben voilà, c'est pas une maladie, c'est pour ça que ça soigne pas. Transmission héréditaire, héréditaire, probable, rencontrée dès l'enfance. Ça, c'est sa mère qui lui a refilé les saloperies. Parce que chez nous, dans ma famille, kératose, on n'a pas ça. Nous, j'ai demandé à tout le monde, à mes parents, à mon pépé, à ma mémé, on n'a pas. C'est pas nous, ça vient d'eux. C'est eux, ça. C'est dégueulasse. Évolution débute le plus souvent dans l'enfance, oui, et peut subir une accentuation des signes lors de la puberté. Ah ben, ça s'arrange. Là, elle est encore petite, mais elle va être esquisse, la jeune fille. Ça va bien nous aider à lui trouver un fiancé, ça. On pourra toujours mettre une annonce dans des stations thermales. Il y aura bien un eczéma de passage qui sera intéressé. À cet âge-là, c'est bien connu, ça les démange, les petits bougres. Ah la vache. Arrgh. Chez la femme, fréquence d'une guérison spontanée à l'âge mûr. Ah, eh ben, de quoi je me plains, petite bonne femme. On vient de fêter ses 5 ans en avril dernier. Elle va se gratter la couenne jusqu'à sa ménopause. C'est les 40 premières années qui sont les plus dures. D'ici là, pour son anniversaire, on lui offrira des moufles. Ils n'ont rien prévu sur l'euthanasie. Oh. Oh, je veux dire, ils sont bien dans ces dictionnaires. Vachement encourageant, rassurant. Bien. Moi, quand je lis ça, j'ai tout. Et puis, on découvre des tas de trucs. La langue noire. Oh. La langue noire. J'invente pas, j'invente rien. Définition, hypertrophie des papilles filiformes de la partie postérieure de la langue. Celles-ci deviennent grises ou noirâtres. Ah la vache, on est peu de choses. Affection indolore. Ah ben ça fait pas mal, c'est déjà ça. Origine inconnue. Dis donc, le type, il se réveille le matin, il a la langue noire. Personne ne sait d'où ça vient. Pour peu qu'il soit catholique pratiquant, il va communier, il passe pas inaperçu, le mec. Pour moi, je dis ça, la communion, c'est plus comme avant, t'as plus besoin de montrer ta langue. Le curé, il tend un petit quignon, tu te le bouffes dans un coin en pensant au corps de Dieu. Autant aller à la boulangerie, t'as une chance d'avoir du pain frais, tu te le ramènes à la maison, tu prends pas le risque de tomber sur un con qui te fait remarquer que t'as du noir sur la langue. Merde! La langue noire. Ah la vache, si je me doutais que ça existait des machins pareils. Alors, traitement, 2 points, aucun. Ah ben comme ça, moi c'est clair, ça c'est fou. Le type il y a un truc qui sait pas d'où ça lui vient et ça part pas au nettoyage, dis donc. Allô, docteur, j'ai la langue noire. Eh ben monsieur, c'est votre problème. Les goûts et les couleurs, moi je suis marié avec une japonaise et j'en suis également pas. Merde, merde, la langue noire. Mais ça c'est rien parce qu'on peut toujours sucer du zan pour donner le change. Mais il y a des trucs dans ce bouquin. Tumeur testiculaire. Ça c'est pas mal non plus. S'observe à tout âge. Les formes malignes sont parfois féminisantes et peuvent donner des tests biologiques de la grossesse positifs. C'est-à-dire que dans ce coup-là, le type, non seulement il se retrouve avec les baloches comme des paupiettes, mais en plus on lui annonce qu'il est en cloque. J'espère qu'on lui fait l'accouchement sans douleur au type. Je sais plus ce qu'on voit, non, c'est à virer barge, moi, maintenant, c'est un truc comme ça, il faut me rattraper au lasso. Hein. Je me mets à courir partout dans les couloirs de l'hosto en dansant le French Cancan avec une plume dans le cul. Ah ben. Manquerait plus qu'on m'engueule. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais comment ils font tous ces médecins pour supporter tout ça tous les jours? Ça, je me le demande souvent, parce que si c'est dans le livre, il est gros, hein, il y en a plein, les trucs comme ça. Et c'est fait par des gens qui savent, donc ça arrive dans la vie, tous les jours. Comment ils font? Il faut avoir un moral, surtout dans certains secteurs. Le type qui se spécialise dans une maladie qui se guérit pas. Oh. Il y en a. Oh, la morale. Ah, moi, je pourrais pas. Je suis là, je fais l'intéressant, je raconte le dictionnaire médical, mais j'ai horreur de ce genre de conversation. Horreur, horreur, parce que il faut que je vous fasse un aveu. Moi, rien que d'en parler, la maladie, ça me tue.
La maladie, ça le tue, alors qu'il a consacré sa carrière à nous faire mourir de rire. Vous êtes sur FM+, et vous faites bien. Une demi-heure d'humour chaque jeudi de 14h à 14h30 sur le 91 MHz. On continue avec Guy Bedos qui, dans la peau d'un boxeur vaincu, répond aux questions d'un journaliste. Et ça donne ceci.
Hier soir, au Palais des Sports, un jeune boxeur battu par KO au premier round a peut-être vu s'envoler sa dernière chance de devenir un grand champion. Nous sommes allés lui poser quelques questions. Alors, ça va un peu mieux?
Oui, aujourd'hui ça va mieux. J'ai fait des compresses. C'est ma femme qui m'a soigné.
Elle a dû être déçue, votre femme.
Elle a été surprise. Elle m'attendait pas si bonheur.
Oui. On peut dire que ça a été rapide. Le combat a duré combien de temps exactement?
2 minutes 9 secondes. Enfin, ôter 10 secondes pour le KO, je pose mon œuf. Je retiens un. Ça fait 1 minute 59. D'un côté, on est plus vite rentré chez soi. Parce que traîner sur un ring, et puis au vestiaire, et puis au bistrot, c'est pas une solution non plus. Surtout pour un sportif.
Que pensez-vous de votre adversaire?
Un type très antipathique. Tout de suite, il m'a déplu d'ailleurs. Je l'ai dit à M. Ramirez. M. Ramirez, c'est mon manager, je lui dois tout. Celui qui m'a trouvé mon surnom, Punching Bill. C'est pas mon vrai nom, moi je m'appelle Maurice. C'est comme Johnny Hallyday, il s'appelle pas Johnny Hallyday. Je le sais, je l'ai lu, je lis beaucoup. C'est M. Ramirez qui m'a fait découvrir la lecture. Je lui dois tout. La boxe, la culture, Punching Bill. Hier soir, il y a des mal élevés qui m'ont appelé Punching Ball.
C'est qui ça?
J'y crois me démoraliser. M. Ramirez m'a dit que j'avais le moral, alors.
L'opinion du vaincu sur le vainqueur, vous n'avez pas tout dit sur lui?
Un type odieux. J'aime pas le mot d'adversaire, c'est vrai. On est tous des frères. Mais celui-là, aïe, aïe, aïe. Enfin, je suis pas le genre à porter plainte.
Qu'est-ce que vous avez?
C'est rien, j'ai du mal à me recevoir en tombant. Il m'a donné une châtaigne dans la figure, une méchanceté. Si tous les boxeurs du monde voulaient se donner la main, je dis des fois. C'est une boutade, parce qu'il y a l'idéal. Et puis, il y a la dure loi du ring, comme dit M. Ramirez.
Hier soir, Ça a été tellement vite, je n'ai pas bien réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, c'est lui qui a commencé. Un garçon plein de poils partout, d'abord un genre épouvantable, c'est vrai, on se rase, il m'écœurait, c'est simple. Il s'est jeté sur moi, vous auriez cru, je sais pas que j'avais dit du mal de lui, je le connaissais même pas. Et au moment où je faisais un petit signe à Janine, à la télé...
Vous avez la télé?
Oui, on a la télé, je la paye avec mon tempérament. Alors ouais. Je fais un geste à la caméra pour ma femme. Pam! Interlude, plus de son, plus d'image. Il m'a tapé dans l'œil. Et 10 secondes, ça passe vite quand on a sommeil. Parce que la boxe, c'est jamais qu'un jeu. Le type qui boxe pour gagner, c'est plus du sport. Il faut pas se prendre au jeu. Moi, je m'amuse, seulement j'ai des bras trop petits. C'est pas des blagues. Autrement, pour boxer, il faut pas être sorti de polytechnique. Il y a la tête et le ventre. Enfin, le foie, l'estomac, je vais pas entrer dans des détails anatomiques. Alors oui, quand je me protège la tête, comme j'ai des bras trop petits, j'ai le ventre à l'air. Et inversement, j'ai plus qu'à fermer les yeux. Ou alors il y a les jambes pour se replier. Moi et mon jeu de jambes, c'est pas pour me donner des coups de pied dans les chevilles, mais j'ai un jeu de jambes terrible. Sur un mirestick, je suis un des plus rapides autour d'un ring.
Comment expliquez-vous votre défaite?
J'ai jamais eu d'instinct sauvage. Je refuse la violence. Déjà, quand j'étais petit et que mon frère me frappait, j'appelais ma mère. Alors, hier soir, comme sur un mur, ça criait « Au buffet! Au buffet !» D'abord, c'était pas malin parce que moi, j'avais la tête ailleurs. Je pensais à autre chose. Je pensais à ma petite Patricia qui vient de perdre deux dents. Comme son papa. Alors l'autre, il a entendu le premier. Il a cru que c'était pour lui, au buffet. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Enfin.
Pourquoi êtes-vous devenu boxeur?
Oh, moi, j'étais pas chaud. C'est Janine et M. Ramirez qui m'ont poussé. Lui, c'est un ami de longtemps, un ami du côté de ma femme, d'ailleurs. Ils sont très intimes. Des fois, je vais au cinéma, il reste avec elle pour pas qu'elle s'embête. Janine, ça lui donne des migraines, le cinéma. Moi, c'est M. Ramirez qui m'a fait découvrir le cinéma. Tout le temps, il m'envoie au cinéma. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Ça et les livres, je dévore. Sans M. Ramirez, je serai jamais qu'une brute. C'est lui qui me l'a dit, je dévore. Littéralement. Teilhard de Chardin, Tolstoïevski, Jules Verne, Maxence van der Merch. Je dévore. J'adore ça. Mais la boxe, c'est un sport qui comporte bien des vicissitudes.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Je vais écrire un livre où je raconte des choses de ma vie. C'est pas ce qui manque. J'ai une tête comme ça.
On change de registre autour du grand, du célébrissime, de l'irremplaçable Raymond Devos. Toujours dans un bon esprit, même si le sien reste faussé, du moins pour sur ce coup-là.
On a dû se tromper de pantalon.
C'est la bieuse encore.
C'est la bieuse qui s'est encore trompée. Vous l'avez remarqué, ça? Vous avez remarqué que la bieuse faisait exactement le contraire de ce qu'on lui demandait. C'est quand même quelque chose. Elle fait le contraire de ce qu'on lui demande. Je lui demande un pull rouge et elle me donne un pull vert. Elle a l'esprit faussé. Vous savez, elle a ce qu'on appelle l'esprit faussé. Parce que vous savez qu'on a tous un peu l'esprit faussé. Oui, mais oui, on a tous un peu. Vous savez comment on en arrive à avoir l'esprit faussé, je vous le dis? Au début, comme ça, je voulais mettre une cravate. Alors ma femme me disait, quelle cravate veux-tu mettre? Cette cravate-ci ou cette cravate-là? Je lui dis, tiens, je vais mettre cette cravate-ci. Elle me dit, oh, pourquoi? Cette cravate-là est tellement mieux. Et je vais essayer cette cravate-là. Alors un jour, j'ai compris que ma femme me dit, quelle cravate veux-tu mettre? Veux-tu mettre cette cravate-ci ou cette cravate-là? Quand je voulais mettre cette cravate-ci, j'ai dit, je voudrais mettre cette cravate-là. Elle m'a dit, oh, pourquoi? Cette cravate-ci est tellement mieux. Et j'ai mis cette cravate, c'est celle que je voulais. Vous comprenez ce que je veux dire? Autre exemple. Je veux dire, par là qu'on en arrive à demander le contraire de ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on a l'esprit présent. Autre exemple. Je vous laisse une paire de bretelles. Bon, alors la vendeuse me dit, quelle bretelle voulez-vous? Voulez-vous cette paire de bretelles ici ou cette paire de bretelles-là? Alors, comme je voulais cette paire de bretelles-ci, j'ai dit, donnez-moi cette paire de bretelles-là. Elle m'a vendu celle-là. Mais c'est pas celle-ci, monsieur. Non, non, mais non. Parce que lorsque je suis rentré, papa me dit, mais pourquoi, toi, cette paire de bretelles-là? Mais j'ai dit, je voulais pas cette paire de bretelles-là. Je voulais cette paire de bretelles-ci. Mais la vendeuse m'a vendu celle-là. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là?
Bah oui, qu'est-ce qu'elle a?
En parlant de la vendeuse, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Alors, elle a repris cette paire de bretelles-ci, elle m'a rapporté celle-là, c'est celle que je voulais. Vous comprenez? Autre exemple. Oh, il y en a pour la soirée, là, alors là. Bon, je voulais acheter une bicyclette. Bon. Alors, la vendeuse me dit, quelle bicyclette voulez-vous, cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là? Alors, je lui dis, quelle différence il y a entre cette bicyclette-ci et cette bicyclette-là? Elle me dit, il y a une différence de celle. Elle dit, celle de cette bicyclette-ci n'est pas la même que celle de cette bicyclette-là, comme la celle de cette bicyclette-là n'est pas la même que la celle de cette bicyclette-là. Lui, donnez-moi cette bicyclette-ci avec la selle de celle-là. Elle dit, mais cette bicyclette-là, on va pas sur cette bicyclette-ci. Comment cette bicyclette-ci? On va pas sur cette bicyclette-ci. Lui, vous n'avez pas d'autre bicyclette que celle-ci? Elle dit, si, mais elles n'ont pas d'autre selle que celle-là. Alors, j'ai posé la question subsidiaire, n'est-ce pas? Ont-elles des sonnettes? Elle dit, sur cette bicyclette-ci, vous avez cette sonnette-là qui fait ci? Et dans cette bicyclette-là, vous avez cette sonnette-là qui fait là. Il le savait. Histoire de plaisante. J'ai dit, vous n'auriez pas une sonnette qui fasse do bémol? Elle a très mal pris. Très mal, très mal. Monsieur, voyez où cette bicyclette-là, où cette bicyclette-là, j'ai dit, donnez-moi un vélo moteur. Elle dit, lequel, le rouge ou le vert? J'ai dit le rouge, et puis je suis sorti avec le vert parce que je suis daltonien.
Daltonien, vous?
Oui.
Vous êtes daltonien?
Oui. Vous saviez pas que j'étais...
Ah, vous saviez pas que j'étais daltonien? Vous saviez pas que j'étais daltonien?
Moi, je le savais. Il y a beaucoup de daltoniens. Moi, je connais un daltonien pervers. Chez lui, tout le processus était inversé. Il voyait comme tout le monde. Un malade. Ouais. Les écolos sont daltoniens, les écolos. Ils voient vert partout. Et quand ils ne voient pas vert... Si bien que lorsqu'ils vont voter, s'ils croient voter vert, et ils votent blanc.
Bon ben, pourrais-je revoir mon portefeuille qui se trouve dans cette veste aussi, s'il vous plaît?
Ah oui, ah ben oui, vous savez, oui, passez-moi le gars qui se trouve dans cette veste-là. Il n'y a qu'à rester comme ça, ça va très bien, il n'y a pas à bouger. C'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité. On change de veste et vous regagnez votre siège.
Un esprit faussé mais très lumineux. On continue avec Raymond DeVos qui, malgré son esprit faussé, cette fois, son esprit lui joue des tours en immisçant des doutes. Ah, le doute. Miroir des convictions. Je vous laisse méditer là-dessus. À jeudi prochain, même heure, même micro. D'ici là, si vous croisez un fada, dites-lui d'aller se faire cuire un bœuf. Bye bye.
Mesdames, messieurs, si vous me permettez... J'espère qu'en rentrant chez vous tout à l'heure, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, mesdames, messieurs, parce que moi, hier soir, en rentrant dans mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là, il ne se sert pas de mes affaires. Ah, j'ai des doutes. Bon, je vais vous jouer une étude de sort. Sort était espagnol de 1778. Ah, j'ai des doutes, c'est pas sa pointure, vous comprenez? Alors, il a force. Alors, après moi, quand j'entre...
Sor était espagnol de 1778 jusqu'à sa mort. Après de très belles études, il en a écrit plusieurs, très belles aussi, dont la cinquième, que je vais vous interpréter, si vous le permettez. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Horreur, j'ai... Pour quelques francs, il a une paire de pantoufles, un pantoufle, il n'a pas besoin de trucs. Cinquième étude de ça. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je ne retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Ma femme ne voulait pas le croire. Mais je lui dis, tu vas voir, un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. Mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un soir, j'arrive sur le palier, j'entends, profitons-en pendant qu'il n'est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie. J'en dis à mon copain qui était là, j'y ai, baisse un peu la radio, on l'entend en bas. Trois jours après, j'entre, je trouve dans mon lit en train de fumer une cigarette, une des miennes. J'ai à ma femme qui était à côté, je dis, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il va brûler mes draps. Il s'en sert. Alors mes pantoufles, mon pyjama, ma radio, mes cigarettes, pourquoi pas ma femme pendant qu'il...